Aujourd'hui, donc, la première leçon, j'ai parlé de Covid. La deuxième leçon, j'ai parlé d'intelligence artificielle et pourquoi ce n'était pas une bonne idée de taxer les robots. La troisième leçon, j'ai parlé d'inégalité et pourquoi il y avait, l'innovation était facteur de mobilité sociale et donc pourquoi il fallait faire attention dans les politiques publiques que l'on choisit de ne pas décourager l'innovation. C'est un grand facteur de mobilité sociale. Et donc j'ai parlé un peu des différents leviers pour rendre la croissance plus inclusive. Donc c'était ma deuxième leçon. La troisième, j'ai parlé. La quatrième leçon, j'ai parlé d'environnement et de politique environnementale. C'était la semaine dernière. Et j'ai montré que la taxe carbone est un outil, mais ce n'est pas le seul outil pour rendre la croissance plus verte. Donc à chaque fois, je remets en cause des idées reçues. La première fois, c'était taxer les robots n'est pas une bonne idée. Deux, surimposer le capital, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour rendre la croissance plus inclusive. Et en tout cas, la fiscalité est un des outils évidemment importants, mais pas le seul pour rendre la croissance plus inclusive. Troisièmement, c'était l'idée de la taxe carbone. C'est important, mais ce n'est pas le seul outil pour rendre l'innovation plus verte. Et aujourd'hui, je veux m'attaquer à une autre idée fausse, c'est celle que le protectionnisme, c'est la solution contre les pertes d'emplois induites par les chocs d'importation. Donc, je vais aujourd'hui dire, voilà, le protectionnisme n'est pas nécessairement la manière de survivre à la mondialisation. Il y a d'autres stratégies, et c'est donc de cela que je vais parler aujourd'hui. Donc en fait, comme l'explique Adam Smith dans La richesse des nations, en permettant une meilleure division du travail, le commerce international est une formidable source de prospérité. Parce que chacun se spécialise dans la production d'un bien pour lequel il a un avantage. Et donc, finalement, ça ne serait pas bien qu'un même pays fasse tout, c'est bien de se spécialiser. Et donc, il y a des gains à la spécialisation. Et ensuite, on s'échange les biens dans lesquels on s'est spécialisé. Voilà, il y a un avantage à la division du travail. C'est vrai au sein même d'une économie, mais c'est vrai mondialement. Et donc l'idée qu'avait Adam Smith, c'était que eh bien, le commerce international, ça permettait à des pays de se spécialiser, donc ils ont des rendements d'échelle, s'ils font toujours un peu la même chose, et ils deviennent très, très experts dans un domaine, et puis du coup on peut échanger avec un autre pays qui lui est expert dans un autre domaine, et ça fait que finalement il y a une diversité plus grande de biens disponibles pour la consommation, et également des biens produits à moindre coût. Donc Adam Smith avait déjà cette vision que eh bien, le commerce permet la division du travail à l'échelle internationale, ce qui permet de produire mieux, plus de variétés, moins cher. Voilà. Là, je mets mes transparents, je mets le premier. Donc je reprends l'idée d'Adam Smith. Le commerce international est source de prospérité. Alors, pourquoi alors la mondialisation des échanges rencontre-t-elle une opposition croissante au sein des pays développés? Les raisons sont les suivantes. C'est que d'abord, ça a conduit à des délocalisations importantes. Voilà. Donc, la mondialisation a permis de délocaliser. Typiquement, les entreprises allaient produire là où c'était moins cher, la main-d'œuvre était moins chère. Et la France est particulièrement sujette à ce phénomène. Je l'ai montré pendant le premier cours. Nous, on est particulièrement champions de la délocalisation et de la désindustrialisation. On a beaucoup désindustrialisé, surtout depuis le début des années 2000. La pandémie du Covid-19 a été un élément renforçant parce que la pandémie du Covid-19, on s'est rendu compte également qu'il y avait un coût à ne pas maîtriser ces chaînes de valeur. On a vu, par exemple, qu'on manquait de masques, on manquait de respirateurs, on manquait de principes actifs et qu'on souffre de ça et qu'on avait des problèmes d'approvisionnement dans des domaines stratégiques. Et donc, on a vu ce qu'il en coûte de perdre le contrôle des chaînes de valeur dans des domaines importants. Donc, si vous voulez, déjà, il y avait eu le choc de la mondialisation et qui a conduit donc à des délocalisations et des industrialisations massives dans nos pays. Et puis, s'est ajouté à ça le choc du Covid, qui a montré l'inconvénient qu'il y avait à quand même être trop dépendant des autres. Voilà. Donc les questions que je vais me poser aujourd'hui, c'est, quel est l'impact du choc d'importation chinois aux États-Unis en particulier? Donc, je vais regarder ça. Ensuite, la deuxième partie, je vais parler de la relation entre exportation et innovation. et je vais montrer que le fait d'avoir de nouveaux marchés d'exportation, c'est un facteur qui stimule l'innovation, et en fait qui ne fait pas que stimuler l'innovation, qui en fait permet également de diffuser les idées davantage. Donc vous voyez, il y a un aspect diffusion d'idées dans l'exportation. Et puis troisièmement, je vais me poser la question, ok, j'ai le choc d'importation chinois, comment je dois y faire face? Est-ce que je vais y faire face par des tarifs, par une guerre commerciale, ou bien par une politique d'investissement, d'innovation, etc. Et je vais comparer un peu les deux politiques. Et la dernière partie du cours d'aujourd'hui portera sur immigration et innovation. Alors que je vous dise d'abord un petit peu, c'est que les politiques de guerre commerciale, c'est exactement ce que Donald Trump a fait. Il se fait élire en novembre 2016, donc il y a 4 ans, jour pour jour, puisque nous sommes aujourd'hui le jour de l'élection présidentielle américaine, en promettant d'ériger des barrières douanières pour protéger, dit-il, les industries et donc l'emploi domestique. Dès 2018, des barrières tarifaires et des quotas d'importation sont imposés sur une longue liste de produits en ciblant différents pays étrangers pour différents produits. Ainsi, en janvier 2018, l'administration Trump relève les tarifs douaniers sur les modules et panneaux solaires, ainsi que sur les machines à laver. En mars 2018, c'est au tour de l'aluminium, de l'acier, des automobiles et des pièces détachées d'être frappés de droits de douane additionnels au nom de la sécurité nationale, soi-disant. S'ensuit une succession de fortes augmentations de droits de douane touchant tous les produits chinois. Puis l'Union européenne subit à son tour les droits de douane américains allant de 10 à 25% sur un montant de 7,5 milliards de dollars de produits exportés de l'Europe vers les États-Unis. Ça touche les vins français, les fromages italiens, les whiskies écossais, etc. Et toutes ces mesures, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont eu pour effet de freiner la croissance mondiale, parce qu'elles ont freiné notamment l'innovation et plus généralement la croissance mondiale. Et donc, on reviendra là-dessus. Voilà. Donc, si vous voulez, je veux un petit peu parler de ça. Eh bien, je vais donc passer tout de suite à la première partie. Donc la question est de savoir, est-ce que M. Trump a eu raison de s'engager dans cette guerre commerciale? Est-ce que c'était la bonne réponse ou est-ce qu'il y avait une autre réponse au choc d'importation chinois? Alors d'abord, je vais parler du choc d'importation chinois. Donc je commence par le choc d'importation chinois. Alors, vous voyez la figure qui est là, elle représente le total, la part des importations en provenance de Chine et des pays à faible coût du travail en Europe et aux États-Unis. Alors, donc, si vous voulez, vous voyez que ça, vous voyez que vraiment la part des imports chinois croît très vite, et ça croît très vite surtout à partir, vous voyez, ça s'accélère dans cette période-là, qui est la fin des années 90. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une accélération dans l'augmentation de la part des importations chinoises. Vous voyez, donc les autres pays à faible coût du travail, c'est à peu près tout le temps pareil, mais vous voyez que la part chinoise, elle, s'accélère, augmente à un rythme accéléré à partir des années 2000. Alors, quel est l'effet sur l'emploi et les salaires? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Mettons que vous êtes une région aux États-Unis, que je vais appeler la région Z, hein, j'appelle ça la zone Z aux États-Unis, et supposons que cette zone, elle produit et qu'elle est spécialisée dans la fabrication d'automobiles, d'accord? Donc, elle fabrique spécialisée dans la fabrication d'automobiles. Et supposons que la Chine également fabrique des automobiles. Alors qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup la Chine entre dans l'OMC? Donc le choc, c'est de dire voilà, à un moment donné, la Chine entre dans l'Organisation mondiale du commerce, d'accord? Eh bien, il va y avoir un effet à la fois négatif et positif. Si la Chine fait concurrence aux États-Unis grâce à l'entrée dans l'OMC, eh bien, il y a deux effets. Il y a un effet négatif et un effet positif. L'effet négatif, c'est que, il y a des voitures chinoises qui vont venir concurrencer les voitures fabriquées dans la zone Z. D'accord ? Et ça, ça va plutôt avoir un effet négatif sur un effet de diversion, un effet de remplacement, si vous voulez. On en dit en anglais « business stealing », on vole un business. Ça veut dire que ça va avoir un effet négatif sur l'emploi et également sur les salaires, parce que la demande de travail va baisser aux États-Unis. Et donc, comme la demande de travail va baisser, ça va plutôt faire baisser le salaire. Donc, à la fois l'emploi industriel et l'emploi et les salaires devraient baisser aux États-Unis. Mais en même temps, l'entrée de la Chine dans l'OMC conduit au fait qu'il y a la demande des Chinois pour des voitures américaines. Donc, ça permet également aux Américains d'exporter plus. Et donc, ça devrait normalement conduire à plus de commandes pour les automobiles produites par la zone Z. Donc ça, c'est l'effet positif. Et ça, ça devrait être plutôt créateur d'emplois. Donc, vous voyez, il y a le côté négatif. La Chine vient me concurrencer et me prendre mes emplois, etc. Mais il y a l'effet positif que j'ai, du coup, un nouveau marché, qui est le marché chinois, pour mes automobiles. Et donc, voilà. Et ça, c'est plutôt stimulant pour l'emploi. D'accord ? Eh bien, il se trouve que les importations américaines en provenance de Chine, eh bien, elles ont dépassé largement les exportations des Américains vers la Chine, ce qui suggère que l'effet négatif du choc chinois l'aurait emporté sur l'effet positif, c'est-à-dire l'effet de destruction d'emplois l'aurait emporté sur l'effet de création d'emplois. En fait, les secteurs manufacturiers américains se sont montrés particulièrement vulnérables au choc d'importation chinois, que ce soit à travers les délocalisations induites par ce choc, les réductions d'effectifs dans les entreprises basées aux États-Unis ou les baisses de revenus pour les salariés. Et en fait, ça, c'est avéré. Donc, si vous voulez, Trump est arrivé sur un fond de grand mécontentement parce qu'il y avait le sentiment qu'il y avait eu ce choc chinois et ce choc de mondialisation et que, finalement, eh bien, les emplois et les salariés américains avaient été fortement exposés à ce choc. Voilà. Donc, voyez ce qui est très intéressant. Là, donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a eu baisse de l'emploi industriel et il y a eu baisse des salaires. D'accord ? Et là, il y a une étude, il y a différentes études, notamment une étude de Autor Dorn, donc je vais marquer le nom à côté, là, ici. C'est des gens du MIT, hein. Enfin, Autor est au MIT, Dorn est à Zurich, et je ne sais pas où se trouve Hanson. OK, 2013. Donc, il y a une première étude, 2013, et ils mettent bien en évidence l'effet négatif. En fait, qu'est-ce qu'on voit très clairement ? On voit très clairement, regardez cette figure, elle est donc, voilà, Autor, Dorn et Hanson, et qu'est-ce que montre cette figure ? Eh bien, la courbe en continu, elle vous montre le taux de pénétration des importations chinoises. Et vous voyez bien qu'en 2000, il y a une accélération dans la croissance de pénétration. Qu'est-ce que c'est que le taux de pénétration des importations chinoises aux États-Unis ? C'est le ratio entre les importations en provenance de Chine et le total des ventes effectuées sur le marché intérieur américain. C'est ça qui est ce qu'on appelle le taux de pénétration des importations chinoises. Et on voit que ce taux de pénétration, eh bien, il augmente toujours, mais il augmente de manière accélérée. Vous voyez, à partir d'année 2000, vous voyez une accélération là, c'est beaucoup plus pentu là que là, vous voyez. Donc il y a vraiment un effet de l'OMC, de l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui est une accélération du taux de pénétration chinois aux États-Unis, d'accord. Et vous voyez que parallèlement, il y a une accélération dans la décroissance, vous voyez, l'emploi industriel, la part de l'emploi industriel dans la population américaine, elle décroît, mais vous voyez qu'elle décroît à un rythme accéléré à partir des années 2000. Donc ça, ça ne montre pas de causalité, mais ça montre qu'il y a quand même une coïncidence assez intéressante entre, d'une part, une accélération dans l'augmentation du taux de pénétration des importations chinoises aux États-Unis et, d'autre part, la décroissance de la part de l'emploi industriel dans la population. Cette décroissance se fait à un rythme accéléré également à partir des années 2000. Alors évidemment, ça, c'est simplement ce qu'on appelle en anglais « smoking gun », c'est-à-dire un pistolet qui fume. C'est suggestif, ce n'est pas causal, d'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, eh bien, la question, c'est de savoir est-ce que cette relation que j'ai montée à un niveau agrégé se retrouve au niveau localement. Et alors là, à ce moment-là, qu'est-ce que font ces personnes-là? Ils disent, ben voilà, dans différents États américains, je ne sais pas, l'Amérique, je la représente comme ça, la Floride est là, et ça, et il y a différents États américains, et dans un État américain, il y a différentes industries. Je connais la composition industrielle. Donc, je peux regarder le taux de pénétration chinois nationalement dans les différentes industries, mais du coup, je peux construire un indice qui est un indice pour cette localité-là, parce que je connais la composition industrielle de n'importe quelle région aux États-Unis. Donc, je sais, par exemple, si dans une région, j'ai 2/3, c'est de l'automobile, et 1/3, c'est d'autres types de produits qu'on fait peut-être en Chine, textile, par exemple, eh bien, je vois que si je sais que de combien le taux de pénétration des importations en automobile pour tout le pays d'automobile chinois a été, quelle a été l'augmentation du taux de pénétration chinois en textile. Et comme cette région, c'est 2/3 d'automobile et 1/3 de textile, je peux dire, voilà le taux de pénétration auquel est sujet cet État américain, voyez. Et donc, on peut construire des mesures de pénétration chinois pour tous les États américains, voyez. Et donc, on peut regarder de manière plus causale, et à ce moment-là, on peut voir comment évoluent les importations nationalement. Et à travers cet instrument qu'on a construit, on peut voir donc un effet. On dit, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas de l'État, ça ne dépend pas de l'emploi dans l'État, hein, c'est une mesure. La composition initiale industrielle de l'État ne dépend pas de l'évolution de l'emploi dans cet État. Et ce qui se passe nationalement pour les taux de pénétration chinois non plus ne dépend pas de ce qui se passe dans cet État. Donc je peux vraiment analyser un effet causal de l'évolution de la pénétration chinoise dans cet État sur l'emploi et les salaires dans cet État. Et ce que en fait l'étude montre, c'est qu'il y a un effet très important de l'augmentation de la pénétration chinoise sur l'emploi. En fait, vous avez une baisse d'emploi qui provient à 25% d'une hausse du chômage et à 75% d'une baisse de taux de participation au marché du travail. Mais on voit, il montre, si vous voulez, ces auteurs montrent un effet causal significatif de la pénétration, de l'augmentation accélérée de la pénétration chinoise sur l'emploi. C'est un effet négatif. Donc, au total, c'est l'effet négatif qui prime. Alors, évidemment, et il montre autre chose, il montre également la baisse des salaires. Donc, il montre vraiment l'effet, c'est à la fois baisse des salaires et baisse de l'emploi. Voilà. Donc voilà ce qui est montré par cette étude. D'accord ? Donc maintenant, on peut se poser la question, quel est l'effet sur l'innovation? On peut dire, voilà, là, vous avez regardé un effet de court terme. Quel est l'effet sur l'innovation du choc chinois? D'accord? Là, il y a cette étude-là, qui est de les mêmes auteurs, plus deux auteurs en plus, Pisano et Chou. Et ça, c'est un papier très récent, de 2019. Et ce papier-là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, voilà, on va regarder l'effet de la... Et alors là, c'est très intéressant, parce que ce qu'on voit quand même, c'est que si on regarde globalement sur toute la période, on voit, si on regarde de loin et qu'on ne fait pas très attention, on voit que les importations augmentent de la Chine. Donc ça, on sait que le taux de pénétration chinois, et là, on voit bien l'accélération en 2000, hein. Ça, c'est la petite courbe en pointillé. Mais on voit que globalement, on voit aussi une hausse des brevets. Donc, si on regardait de loin, on se dit, il y a une corrélation positive entre l'innovation et le taux de pénétration chinois. On dit, vu de loin, on a le sentiment que, on a vu qu'il y a une augmentation du taux de pénétration des importations chinoises aux États-Unis, mais que dans la même période, globalement, il y a également une augmentation des brevets, qui est donc une augmentation de l'intensité d'innovation. Donc, on peut se dire, si on ne fait pas très attention, finalement, les importations chinoises ont eu un effet bénéfique sur l'innovation aux États-Unis. Alors, d'ailleurs, il pourrait y avoir une raison valable. C'était la raison dont j'ai parlé plus tôt dans mon cours. Quand je parlais de concurrence, je disais que des fois, la concurrence incite à l'innovation pour échapper à la concurrence. Si vous venez me faire concurrence, je vais travailler plus dur pour échapper à la concurrence avec vous. Donc, vu de loin, on pouvait se dire, bah, finalement, c'est bon pour l'innovation américaine parce que ça leur donne un petit coup de fouet, ça les oblige à innover davantage pour pouvoir se tenir la concurrence mondiale, d'accord ? Mais en fait, ça n'a pas été si simple parce que si vous regardez de près, vous voyez que là, c'est de cette période-là, il y a une accélération de l'augmentation de la pénétration chinoise, vous voyez ? Donc, alors que pendant cette période-là, vous voyez un léger déclin à partir des 2000 des brevets américains. Vous voyez, donc là, on voit qu'en fait, ce n'est pas positif, c'est négatif. Si on regarde vraiment la période, si on zoome sur cette période-là, alors on voit bien que ce n'est pas une corrélation positive que l'on a, c'est plutôt une corrélation négative. Vous voyez, comme quoi, quand on regarde des séries historiques, il faut faire ça à la loupe et regarder ça très attentivement. D'accord ? Eh bien, donc, si vous voulez que... Donc, on peut se dire, ben voilà, là, ça les a conduits, ces auteurs, à dire, ben, allons regarder de plus près. Alors, ils ont regardé au niveau des entreprises et des secteurs, vous voyez. Et, alors, d'ailleurs, ils ont regardé, c'est très intéressant, ils ont regardé pour différents secteurs, ils ont regardé l'évolution, le nombre de brevets dans différents secteurs, ordinateur, chimie, autres, il est très intéressant que c'est surtout les brevets, mais tout, de partout un peu, vous avez le déclin, vous voyez, que ce soit les ordinateurs, les autres secteurs manufacturiers ou la chimie, vous avez quand même ce déclin, vous voyez, un peu partout. Donc, ce n'est pas juste en moyenne, ça frappe tous les secteurs. C'est intéressant. Et également, on regarde le changement dans le nombre de brevets par rapport à la croissance parce que différents secteurs sont sujets de manière différente à une augmentation du taux de pénétration. Et on voit que, évidemment, si on regarde comme ça, on a l'impression que c'est dans les secteurs où la pénétration a augmenté le plus que les brevets semblent avoir augmenté le plus. Mais en fait, les choses, elles peuvent sembler positives, mais en fait on voit déjà que si on regarde là, ce n'est pas positif. Et tandis que là, j'avais regardé une corrélation en moyenne entre les brevets, la croissance des brevets et la croissance du taux de pénétration sur toute la période 75-91 ou de 91-2007. Mais en fait, il faut zoomer. Et quand on zoome, on s'aperçoit que l'histoire est beaucoup plus compliquée. Donc, en fait, pour regarder ça de manière plus précise, les auteurs ont regardé au niveau des firmes. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont regardé ? Eh bien, ils ont regardé comment l'évolution de l'exposition de l'industrie aux importations chinoises, eh bien, impacte sur l'évolution du nombre de brevets. D'accord ? Et ils l'ont regardé au niveau firme, I c'est firme, J c'est industrie, et taux c'est le temps T. D'accord ? Et en fait, alors l'important, c'est de contrôler. Pour les secteurs. Donc l'important, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, la coévolution positive, c'est simplement que le fait que ce soit positif peut traduire le fait que, eh bien, il y a des tendances qui affectent indépendamment, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, indépendamment, les brevets augmentent et la concurrence augmente. Vous voyez, on contrôle pour des effets de secteur. Vous voyez, on contrôle pour l'hétérogénéité des secteurs. Et à partir du moment où on contrôle pour l'hétérogénéité des secteurs, on voit vraiment qu'il y a une corrélation négative entre l'exposition aux imports. Et le nombre de brevets. Vous voyez, c'est intéressant. Une fois qu'on a fait abstraction du fait que des secteurs sont différents intrinsèquement et ont donc des évolutions différentes intrinsèquement, parce qu'il se peut que certains secteurs soient sujets à différents trends, comme on dit, à différentes tendances de long terme de certains secteurs par rapport à d'autres. Quand on fait abstraction des différences sectorielles, en particulier des différences sectorielles en matière de tendances de long terme, eh bien, on voit que ce qui reste vraiment, c'est un effet négatif du choc d'importation qu'on voit ici, vous voyez, l'innovation. Donc ça, c'est très intéressant. La relation une négative, donc on pouvait croire a priori que la relation soit positive. Voyez, donc l'important, c'est qu'on ne contrôlait pas pour des tendances d'innovation qui peuvent être différentes d'un secteur à un autre. Une fois qu'on le fait, eh bien, on voit que, alors que le graphique initial indiquait une relation positive entre croissance des imports et brevets, si on regardait toute la période, la relation, d'abord, on voyait déjà que si on regardait la période à partir de 2000, c'était pas vrai, et puis la relation devient négative une fois que l'on contrôle pour les tendances globales des différentes industries. Et donc là, à ce moment-là, on voit vraiment un effet négatif. Donc, en fait, l'exposition à la concurrence internationale, elle semble, donc on voit un effet négatif. Alors, pourquoi cet effet négatif ? L'idée, c'est que, en fait, ça réduit les rentes. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, à partir du moment où il y a plus de concurrence, ça réduit vos rentes. Et comme vous avez moins de rentes, vous pouvez moins investir dans la R&D. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un effet, si vous voulez, que ça squeeze les rentes des entreprises et elles ont moins de possibilités d'investissement. Voilà. Il semble que cet effet-là ait été important. Et en fait, on le voit de manière importante. Donc l'hypothèse, c'est que la concurrence étrangère accrue, une concurrence étrangère accrue, réduit la rentabilité d'entreprise, qui donc réduit donc la capacité qu'a l'entreprise à innover et à investir. Et on voit d'ailleurs l'investissement en capital, l'investissement en R&D et négativement l'emploi, tout ça est négativement affecté par le choc d'importation. Donc en fait, ce qui passe avec le choc d'importation, les entreprises américaines réduisent la voilure, elles la réduisent sur l'emploi, elles la réduisent sur les investissements en capital, elles la réduisent sur les investissements en R&D. Et c'est ça qui a fait que vous avez cet effet négatif sur l'innovation du choc d'importation chinois aux États-Unis. D'accord ? Donc c'est ça que je voulais montrer. Donc, on observe bien une relation négative entre les importations étrangères chinoises et différentes mesures de l'activité de la firme, la chute de l'innovation étant alors une des conséquences de cette baisse d'investissement et cette réduction de voilure. D'accord ? Donc, voilà. Alors, on pourrait dire que la substitution, cette substitution de l'innovation aux États-Unis, elle est au bénéfice de l'innovation ailleurs, par des équipes incluant des chercheurs étrangers. Non, parce que c'est partout pareil. C'est les firmes avec des US inventors, les firmes avec des foreign inventors, et tout le monde est négativement affecté en fait par le choc chinois. Donc c'est très intéressant parce que ça c'est une étude. Donc il dit sur données de firmes, à partir du moment où je contrôle pour les tendances sectorielles, je vois que le choc d'import chinois a non seulement fait baisser l'emploi et les salaires, mais il a également découragé l'innovation des entreprises chinoises, des entreprises américaines. C'est intéressant parce qu'il y a une autre étude, par Bloom, Van Rienen et Draca, sur données européennes, et eux, alors, ils trouvent le contraire, parce qu'ils trouvent que, en fait, c'est vraiment l'effet dont j'avais parlé tout à l'heure, que, en fait, l'innovation, que la concurrence des Chinois stimule l'innovation. Vous voyez, parce qu'il peut y avoir les deux côtés. D'un côté, je réduis mes rentes, donc j'ai moins de moyens pour investir en R&D, etc. Je réduis la voilure. Mais il y avait l'effet opposé qui est que, davantage de concurrence des Chinois m'incite à innover plus pour pouvoir tenir la concurrence avec les Chinois. Et donc, en fait, ils ont donc cet article-là qui est dans la Review of Economic Studies. Et eux, ils regardent les pays européens. Et ils regardent à nouveau l'impact du choc chinois d'importation sur l'innovation, mais cette fois des firmes européennes, d'accord ? Et donc, eux, c'est les données de brevets européens. Et ils regardent à la fois l'impact du choc chinois sur les brevets, sur la productivité et sur l'adoption des TIC. Et ils ont également quelque chose sur la R&D. Alors, ils ont des données de commerce, ils ont une mesure d'importation provenance de la Chine par rapport aux importations totales. Donc ça, c'est leur mesure d'importation, c'est la part chinoise des importations européennes. Hein, et on voit un petit peu comment, voyez. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent l'effet de la part des importations en Europe provenant de la Chine sur différentes mesures de technologie ou d'innovation des firmes européennes. D'accord ? et eux trouvent un effet positif. Donc, vous voyez, ils trouvent le contraire de Hauteur. Donc là, il y a quand même deux études par des gens tout à fait prestigieux, aussi prestigieux les uns que les autres, qui ont d'ailleurs travaillé ensemble. Bloom, Van Drinnen et Hauteur ont un papier récent ensemble. Donc, c'est des gens qui s'apprécient beaucoup, qui travaillent ensemble, qui se respectent énormément. Mais ils ont l'air de dire deux choses opposées. C'est quand même un peu gênant vis-à-vis du public de dire « Moi, je ne peux pas vous dire si le choc d'importation chinois a finalement un effet positif sur l'innovation, c'est-à-dire c'est l'effet concurrence qui stimule l'innovation qui domine, ou si c'est un effet réduction de voilure qui domine. Et donc, voilà. Et eux, ils ont un effet positif. D'accord ? Donc, et ils montrent que c'est causal parce que, voilà, donc ils arrivent à montrer que c'est un effet causal. Alors, donc, on se trouve là et on est avec deux études. L'une dit c'est négatif, l'autre dit c'est positif. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, nous sommes impliqués dans un travail récent, un travail en cours. Donc, je fais avec Antonin Bergeau, Mathieu Lequin, Marc Mélis et Thomas Hubert. Donc, ça se fait beaucoup ici au Collège de France, en fait, puisque c'est avec les données que nous avons au Collège de France, et ça se fait, c'est basé au Collège de France et la Banque de France. Donc, c'est une belle collaboration Banque de France, Collège de France et Harvard, puisque Mélis est à Harvard, où on regarde de manière plus précise. On dit, voilà, c'est quand même intéressant, c'est que quand on dit le choc d'importation chinois, on importe quoi ? Ça pourrait être des biens, ça pourrait être des biens en amont et des biens en aval. Si vous voulez, moi, je produis une automobile, d'accord ? Donc j'ai mon bien en aval, d'accord ? Ça c'est l'automobile et j'ai les composants des automobiles. Vous voyez, genre, je sais pas, moi j'ai les rétroviseurs, d'accord ? J'ai les composants. Donc le problème, c'est, et ça c'est un des gros problèmes de Trump, c'est que il n'a jamais distingué et il n'a jamais essayé de savoir ça c'est le marché en aval et ça c'est le marché en amont. Et l'important c'est de savoir est-ce que ma concurrence elle est davantage en aval ou en amont. Vous voyez, ça pourrait être un choc en aval, c'est-à-dire moi les Chinois produisent des voitures qui concurrencent mes voitures, mais il pourrait aussi, il se peut passer que les Chinois concurrence des producteurs américains de composants de voitures. Et l'effet n'est pas le même du tout. Vous voyez, si la concurrence chinoise, elle est surtout sur l'automobile, elle est surtout sur le bien final, alors là, évidemment, l'effet réduction de voilure va certainement être très important parce que, ça va me bouffer des rentes, quoi. Hein, ça va me faire perdre des emplois, je vais être obligé de baisser mes emplois et je vais être obligé d'investir moins. Alors, il se peut que... tandis que si la concurrence, elle est en amont, sur les composants, eh bien, d'avoir... si on ouvre le marché chinois aux composants de voitures, c'est une très bonne affaire pour General Motors, parce que ça veut dire que General Motors peut produire des voitures moins chères, du coup, être beaucoup plus compétitive internationalement, et du coup, c'est bon pour General Motors. Donc, déjà, c'est très important de distinguer est-ce que la concurrence chinoise, elle est principalement sur le marché en aval, c'est-à-dire sur les produits finaux, ou est-ce qu'elle est davantage sur les produits en amont, sur les composants. Et vous voyez déjà que, eh bien, il y a vraiment effet de réduction de voilure. Si c'est une concurrence en aval, mais pas si c'est une concurrence en amont, d'accord ? Donc la première chose, c'est ça. Parce que, alors, en amont, je dis que c'est dans upstream, et en aval, je dis downstream, d'accord ? Donc c'est ça qui est important. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on exploite des données de douane pour prendre en compte la structure des outputs, c'est-à-dire des produits finaux, des inputs, c'est-à-dire des composants de la firme au niveau des différents produits. Et deux firmes du même secteur n'ont pas fait nécessairement la même exposition au choc chinois parce que j'ai peut-être pas exactement les mêmes composants et il y a davantage de composants pour l'une que pour l'autre qui sont importés par la Chine. Voyez, donc c'est très important de regarder. Et voyez, la chose qui est très intéressante, c'est que sur nos données à nous, alors nous on a des données françaises, hein, c'est des firmes françaises et on connaît leur exposition, donc nous c'est vraiment sur la base de données françaises. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est des données très détaillées. Et on voit que c'est surtout le choc en aval qui a un effet négatif sur les brevets. Pas le choc en amont. Le choc en amont a un effet légèrement positif. Vous voyez, donc c'est très important. Et ça, c'est jamais les études de Hauteur et de Bloom ne distinguent pas, elles prennent le choc globalement. Elles ne regardent pas dans le choc ce qui est choc en amont et ce qui est choc en aval. Et donc, si vous voulez, elles mélangent les serviettes et les torchons. Tandis que c'est important de distinguer. Et on voit que c'est le choc en aval qui est mauvais. Le choc en amont, il est plutôt bon pour les brevets. Vous voyez ? Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Alors maintenant, on peut comprendre pourquoi Bloom et Hauteur trouvent des choses différentes. Rappelez-vous que Hauteur s'intéresse à l'effet du choc d'importation chinois sur l'innovation aux États-Unis, tandis que Bloom et Hall s'intéressent à l'effet du choc d'importation chinois sur l'innovation en Europe. Or, si vous regardez les différentes, là je range les industries en Europe et aux États-Unis par le degré d'amont. Et vous voyez que les industries européennes sont beaucoup plus en amont que les industries américaines. Vous voyez, en moyenne, voilà le degré de amont des industries européennes, 46,8. C'est bien au-dessus du degré moyen de amont, de upstream, des industries américaines. Donc là, déjà, ça vous donne une clé possible pour expliquer les différences de conclusion entre Hauteur et Bloom, c'est que simplement, ils n'ont pas regardé si c'était aval-amont. Or, nous savons que le choc est plutôt plus amont en Europe qu'il n'est aux États-Unis. Donc ça pourrait expliquer pourquoi l'effet est plus positif sur l'innovation en Europe qu'elle l'est aux États-Unis. Vous voyez, c'est intéressant parce que, toujours comme ça, l'économie, on part d'études, il y a des études qui trouvent des choses différentes avant d'essayer de comprendre la théorie. Ben, une théorie possible, très simple, c'est qu'évidemment, il y a les chocs amont et les chocs aval. Voilà, d'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Il y a une autre considération qui est importante, c'est la considération des firmes frontières. J'avais dit qu'il y avait deux effets des imports. L'une, c'est réduction de voilure, je réduis mes rentes, mais l'autre, c'est les importations, ça augmente la concurrence, ça m'oblige à faire mieux pour faire mieux que le concurrent. Ça, c'est vrai si je suis une firme frontière. Je suis une firme plus à la frontière. Je réagis davantage. Tandis que si je ne suis pas une firme frontière. Donc, c'est intéressant de savoir si dans l'automobile, disons que c'est pu être aussi une raison pour lesquelles, en tout cas, on ait des effets différents. Dès qu'on distingue, donc on sait qu'en fait, les entreprises loin de la frontière, c'est celles qui vont être le plus négativement affectées par le choc chinois en termes d'innovation, tandis que l'innovation sera moins négativement affectée. Ce qu'on trouve, nous, dans notre étude, c'est que, en tout cas, ça n'explique pas la différence États-Unis-Europe tellement, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on distingue frontière par frontière, ce que non plus ne font pas les études dont je parle tout à l'heure, c'est surtout les entreprises loin de la frontière dont l'innovation est négativement affectée par le choc d'importation chinois. Les entreprises les plus frontières, elles sont beaucoup moins négativement, elles sont même positivement affectées par le choc d'importation chinois. Vous voyez, c'est très important de distinguer d'abord est-ce que mon choc d'importation est en aval et sur mes composants ou sur mon produit final, et deux, est-ce que je suis moi une entreprise frontière ou pas frontière. Et je crois que c'est très important de faire ces distinctions quand on regarde les effets des imports chinois. D'accord ? Donc je crois que je reviendrai sur ce point tout à l'heure. D'accord ? Donc finalement, en résumé, il y a eu choc d'importation chinois. C'est vrai que le choc d'importation chinois a eu un effet négatif sur l'emploi et les salaires aux États-Unis. Sur l'innovation, il a eu un effet négatif globalement, mais il faut quand même distinguer si c'est en amont ou si c'est en aval. C'est pas la même chose. Donc il semble que le choc soit plus amont en Europe qu'aux États-Unis. Et donc ça expliquerait qu'en Europe il y a eu un effet moins négatif. La question c'est de savoir comment je réponds au choc d'importation chinois, hein. Voilà. Donc si vous voulez, Trump évidemment est arrivé au pouvoir aussi parce qu'il y avait un certain mécontentement à cause des effets sur l'emploi et les salaires des importations chinoises, la façon dont les Chinois géraient l'OMC, d'accord. Donc on va voir maintenant je vais parler maintenant d'exportation. Donc, que l'effet d'importation chinoise soit plus bien en amont explique pourquoi Bloom et Vandrinen trouvent un effet positif total du choc chinois sur l'innovation à l'opposé de Hauteur. Le choc d'importation chinoise s'est en effet produit davantage en amont en Europe qu'aux États-Unis. Et maintenant, je passe à la partie exportation. D'accord ? Donc, j'ai fait J'ai parlé du choc d'importation chinois, je parle maintenant de exportation-innovation. Après, je parlerai comment faire face au choc d'importation et ensuite, je parlerai d'immigration. Alors d'abord, il y a une chose qui est importante, c'est que quand j'exporte plus, eh bien, il y a un effet de l'exportation sur l'innovation. Et c'est l'effet suivant, c'est que, en fait, la théorie est la suivante, si vous voulez. Mais après, elle est vérifiée par les données, par l'analyse empirique. Si vous voulez, c'est que, eh bien, de nouveaux marchés d'exportation, acquérir un nouveau marché d'exportation m'incite davantage à innover. Alors ça, c'est ce qu'on va vérifier empiriquement. Mais la théorie derrière est la suivante. De pouvoir exporter dans un autre pays, d'ailleurs j'aurais dû enlever ma jaquette bien avant, je suis vraiment un peu chaud, exporter dans un nouveau marché, pourquoi c'est une bonne chose pour l'innovation? Parce que ça me donne des rentes supplémentaires d'innovation. Vous voyez, quand j'innove, pourquoi j'ai des rentes d'innovation? Parce que j'ai un marché pour mon innovation. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un marché d'exportation supplémentaire? Ça veut dire que j'ai beaucoup plus de consommateurs ou d'acheteurs pour mon innovation. Donc, j'ai des rentes, j'ai des possibilités de rentes supplémentaires. On voit bien, si j'ai un produit qui a beaucoup de succès mondialement, ben c'est de là que me viennent l'essentiel de mes rentes. Hein, les Apple, Microsoft, tous ces gens-là ont fait fortune parce qu'ils ont pu exporter. S'ils n'avaient que le marché américain, Apple, Microsoft, Facebook, s'ils n'avaient que le marché américain, ils n'auraient jamais pu devenir ce qu'ils sont devenus. D'accord ? Donc il y a un effet de taille de marché. C'est-à-dire que d'avoir des marchés exportés, ça augmente la taille de votre marché et donc ça augmente la taille des rentes que vous faites si vous innovez. Mais il y a une autre raison pour laquelle ça pourrait être une bonne chose d'avoir d'exportation, c'est que vous avez des concurrences, c'est-à-dire que sur un marché d'exportation, vous faites la concurrence avec d'autres pour pouvoir exporter, justement. Vous voyez, il y en a d'autres qui veulent exporter dans d'autres pays que vous. Et donc, vous êtes amené, si vous vous intéressez à l'exportation et que vous voulez préserver un marché d'exportation ou le gagner, eh bien, vous vous mettez en concurrence avec des gens avec qui vous ne seriez pas mis en concurrence si vous n'aviez pas été dans ces marchés d'exportation. Donc, il y a un effet concurrence qui stimule l'innovation. Vous voyez, je vais innover pour faire mieux que le concurrent. Vous voyez, cet effet dont je parle toujours de « escape competition ». Donc, il y a l'effet concurrence et l'effet de taille de marché. Donc, a priori, on se dit, eh bien, ça devrait être une bonne chose, pour l'innovation, l'exportation est une bonne chose. Eh bien, que disent les données empiriques? D'abord, il y a une première étude qui est une étude sur données canadiennes. Et donc, c'est cette étude de Lileva et Treffler dans le Quarterly Journal of Economics 2010. Et qu'est-ce que font Lileva et Treffler? Eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils exploitent ce que j'appelle une expérience naturelle, c'est-à-dire quelque chose, un événement qui se produit, et on va voir les effets que cet événement a. Et cet événement, c'est l'accord de libre-échange à la fin de l'année 88 entre les États-Unis et le Canada. Eh bien, c'est une expérience naturelle. Que stimule cet accord de libre-échange? Il stipule une baisse sensible des droits de douane entre les deux pays. D'un point de vue de l'économètre qui veut tester sa théorie, la mise en place de ce traité est une bonne nouvelle parce que c'est une expérience naturelle. L'économètre va pouvoir observer les réactions des entreprises à la baisse des droits de douane. Et d'ailleurs, on voit très bien que sur cette figure que je vais vous montrer maintenant, on voit très bien qu'avant l'accord, donc ça c'est l'accord de libre-échange et qui a lieu là, et on voit qu'avant l'accord, ça c'est l'effet sur les exportations manufacturières canadiennes à des siècles aux États-Unis. Papa, c'est à peu près plat. Puis tout d'un coup, on voit qu'il y a une rupture de tendance. Là, il y a comme un coude. Après l'accord de libre-échange, on voit bien qu'il y a une hausse des exportations des entreprises industrielles canadiennes vers le marché américain. D'accord ? Donc ça c'est intéressant. Et on voit vraiment ça. Qu'est-ce qu'on trouve sur l'innovation? Eh bien, on va regarder un peu des mesures, disons, d'innovation, de productivité. D'accord? Donc, Donc je regarde un petit peu, donc c'est ce que j'ai dit là, je reprends les slides. Intuition, plus la taille de marché est importante, plus l'investissement dans le sens d'un gain de productivité est important. Ainsi, en donnant accès à un marché plus grand, les exportations incitent à innover pour gagner en productivité. Par conséquent, exporter et investir dans la productivité sont deux activités complémentaires. L'une rend l'autre plus profitable. D'accord ? Et donc, j'ai décrit ce que c'était que le libre-échange. Baisse des droits de douane entre États-Unis et Canada. Ces baisses de droits de douane diffèrent selon les usines et les secteurs. Donc, c'est très important. On peut explorer l'hétérogénéité des effets de cette libéralisation d'une firme à l'autre, d'un secteur à l'autre. On pourra donc s'en servir comme instrument, car c'est un facteur exogène, cet accord de libre-échange. Négociation débutée en septembre 1985. Processus long et difficile. De négociations entre républicains et démocrates, victoire de Bush en 88, entérine de Bush père la mise en place de ce traité de libre-échange. D'accord ? Et donc on va voir maintenant, ben on va regarder les firmes canadiennes. Donc on a les trois types de firmes, des firmes qui n'exportent ni en 84 avant l'accord, ni en 96. Il y a des firmes qui sont de nouveaux exportateurs, qui n'exportaient pas en 84, mais qui exportent en 96. Et puis il y a ceux qui exportaient déjà en 84. D'accord ? Et on va s'intéresser aux gains de productivité hétérogènes des firmes. Donc on classe les firmes en 5 groupes selon la productivité en 88 avant l'accord de libre-échange, des entreprises les moins productives aux entreprises les plus productives. Et voilà. Et on fait une régression et on regarde l'évolution des droits de douane pour instrumenter les fonds d'exportation. D'accord ? Et on regarde l'effet que ça a sur les exportations. On voit vraiment un effet positif des exportations sur les gains de productivité. Donc là, en fait, c'est l'effet sur les gains de productivité sur l'ensemble des firmes. Donc ça, c'est très intéressant. On voit que, effectivement, les firmes canadiennes sont devenues plus productives. Donc ça veut dire qu'elles ont investi en innovation pour devenir plus productives. Hein ? Voilà. Et l'effet est hétérogène, c'est très intéressant. L'effet est surtout important pour les firmes moins productives, en fait, elles rattrapent. C'est un effet de rattrapage. À partir du moment où il y a les droits de douane, les firmes les moins productives deviennent plus productives. Et cet effet semble être plus important pour les firmes initialement les moins productives. D'accord ? Les firmes peu productives innovent et font des gains de productivité très importants grâce aux exportations. Les firmes déjà suffisamment productives innovent, mais font des gains de productivité moins importants. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une première étude, disons, qui avait été faite en montrant, disons, une causalité de l'exportation vers quelque chose qui s'apparente à l'innovation. Ils n'avaient pas directement des mesures de brevet, mais ils avaient des mesures de productivité et donc et de R&D également. Et on voit qu'il y a un effet positif sur productivité et R&D et l'investissement R&D du choc d'importation, de la libération du libre-échange, de la libération des échanges entre le Canada et les États-Unis. Alors l'étude maintenant dont je vais parler, c'est cette étude avec Bergeau, Lequin, Mélitz, donc c'est quasiment les mêmes auteurs que tout à l'heure. C'est notre première étude où on regarde le lien entre exportation et brevet. Et vous voyez ici, c'est intéressant, je classe, c'est des firmes françaises, et je regarde les firmes en termes à la fois de degré d'innovation, c'est-à-dire brevet, est-ce qu'elles brevettent beaucoup ou peu, et puis je les regarde en termes de... je regarde les exportations. Et je vois qu'en fait... Je prends n'importe quel degré d'exportation et on voit que plus on est dans une classe de firmes qui exportent beaucoup, plus, en fait, une part importante des firmes dans un secteur. Donc, vous voyez, je classe des secteurs, là, selon que le secteur exporte ou pas. Donc, c'est des secteurs que je classe là. Et je me dis, dans ce secteur, disons dans les secteurs qui exportent, je regarde l'ensemble des firmes, si vous voulez, qui exportent à ce niveau d'exportation. Quand je regarde l'ensemble des firmes qui exportent à ce niveau d'exportation, eh bien, une fraction plus importante, vous voyez, est innovante. Donc, c'est-à-dire, plus je mets la barre haut en termes d'exportation et je regarde toutes les firmes qui exportent à ce niveau-là, eh bien, quand je mets le niveau très haut en exportation, eh bien, c'est que la plupart des firmes sont innovantes. Donc, ça veut dire que, quelque part, on voit qu'il y a un lien entre exportation et innovation. Ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité d'exportation vers innovation, mais il y a déjà une corrélation assez claire. Plus je me situe à des niveaux d'exportation plus élevés, plus je trouve des firmes innovantes. Donc c'est déjà intéressant, ça va dans le sens que je veux. Mais corrélation ne vaut pas causalité. Exportation, innovation se déroulent conjointement et ça ne veut pas dire que c'est l'effet de l'exportation sur l'innovation. D'accord ? Donc ce qu'on fait en fait, ce que font... Alors là c'est très intéressant... je regarde en fait je regarde les firmes. Alors ça, c'est quand je suis à gauche, c'est des firmes très vous voyez, c'est qui sont de c'est des ranks, c'est-à-dire des classements, vous voyez. Donc plus je vais là, moins je suis bien classé. Et on voit qu'en termes de brevets, c'est très vous voyez, la part des brevets, c'est surtout ceux qui brevettent beaucoup, vous voyez. Donc ceux qui brevettent beaucoup eh bien tiennent compte de beaucoup. C'est très concentré, les brevets, sur ceux qui brevettent beaucoup. Les exports, c'est aussi concentré, mais moins que les brevets. Donc les brevets sont concentrés sur un petit nombre de firmes, encore plus petit que les exportateurs. C'est intéressant de savoir ça, d'accord. Et on peut regarder un petit peu les caractéristiques des exportateurs et des non-exportateurs. Et vous voyez que si vous restreignez aux exportateurs, eh bien les innovateurs, il y a beaucoup moins de firmes qui innovent que de firmes qui innovent pas, d'accord. Mais les firmes qui innovent, elles tendent à vendre beaucoup plus, elles ont beaucoup plus de profitabilité que les firmes qui n'innovent pas, et elles exportent beaucoup plus. Vous voyez, donc je regarde vraiment les innovateurs, donc parmi ceux qui exportent, le gros des exportateurs, c'est les firmes innovantes. C'est quand même intéressant de voir cette relation-là, c'est que si je me restreins aux exportateurs, eh bien le gros des exportateurs, c'est les firmes innovantes, et donc je vois cette relation-là qui est très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle des statistiques descriptives. Il n'y a aucune causalité là-dedans. C'est simplement les caractéristiques moyennes en matière d'emploi, de chiffre d'affaires, de profit, d'âge, d'exportation, des firmes qui exportent ou qui n'exportent pas et qui innovent et qui n'innovent pas. Mais on voit qu'en général, les exportateurs sont plus grandes. Les firmes qui exportent, les firmes qui innovent tendent à être plus grandes que les firmes qui... vous voyez, les exportateurs... même innovants sont plus grands là, et surtout les exportateurs innovants sont beaucoup plus grands que là, vous voyez, c'est surtout là que je dois comparer. Les exportateurs qui innovent sont beaucoup plus grands que les non-exportateurs qui innovent, et les exportateurs qui n'innovent pas sont également beaucoup plus grands. Donc les exportateurs en moyenne sont plus grands, mais à chaque fois la firme innovante est plus grande que la firme qui n'innove pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose, je voudrais un effet causal. Donc, je vais faire un effet causal de l'exportation sur l'innovation. Alors, comment je vais faire? Je vais, en fait, faire une régression. Je vais dire, voilà, je vais régresser ma mesure d'innovation sur quelque chose qui est mon choc d'exportation. Vous voyez? Et mon choc d'exportation, je le construis de la manière suivante. Je dis, voilà... je veux que ça soit assez exogène, je ne veux pas que ça vienne de ma firme à moi. Je veux dire simplement, moi, je suis une firme française. Avant la période qui m'intéresse, j'exportais pour 2/3 en Chine et pour 1/3 au Vietnam. Et voilà comment le PIB vietnamien ou la taille de l'économie vietnamienne versus chinoise évolue. Et donc, je vais mesurer l'évolution de ma variable, de mon choc d'exportation, si vous voulez. Je vais le mesurer par la manière suivante. Moi, je suis une firme qui exporte aux 2/3 en Chine et 1/3 en Vietnam. Et donc, je prends ces 2/3, 1/3 comme données. C'est ce qui était ma part avant la période qui m'intéresse. Et ensuite, je regarde l'évolution de la taille de ces économies. Mais l'évolution de la taille de l'économie chinoise est indépendante de mon entreprise française. Donc, c'est quelque chose qui est complètement extérieur à l'entreprise française. Et donc, je construis une mesure de choc d'exportation, si vous voulez, à laquelle est sujette ma firme, qui est indépendante de ma firme. C'est-à-dire, c'est exogène à ma firme. Et je vais regarder l'effet de ce truc-là sur mon innovation, moi, la firme française. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je construis une mesure d'évolution de marché d'exportation qui est indépendante des décisions que je prends, moi, firme française. Donc, je veux... Quel est l'effet de ce choc exogène, qui m'est totalement exogène, puisque l'évolution de la taille de l'économie chinoise, de la taille de l'économie vietnamienne sont totalement exogènes à ce que moi je suis, d'accord? Et je regarde l'effet de cette variable-là sur mes brevets, d'accord? Et donc, c'est comme ça que je construis. Vous voyez, je regarde, ça, c'est les tailles de l'économie chinoise ou de l'économie vietnamienne dans les produits que moi, je vends, évidemment, hein. Donc, J, c'est les différents pays. S, c'est les différents produits. Et ça, c'est indépendant de moi qui suis la firme F. Mais je regarde, moi, firme F, quelle est la part de mes exportations qui est dans ce produit, dans ce pays. Vous voyez, je veux dire. Et donc, ça, et avant que je commence, au temps T0, qui est avant la période d'observation. Donc, j'ai une certaine exposition initiale à la Chine, au Vietnam, etc., qui ne bouge pas, que je ne bouge pas, et je regarde simplement, moi, cette variable de choc d'exportation est construite en prenant ces poids-là, et après en multipliant ces poids par des mesures des tailles de l'économie chinoise et vietnamienne qui évoluent. Donc l'idée, c'est que si, par exemple, je vendais les deux tiers en Chine et le tiers au Vietnam, et que tout d'un coup, l'économie chinoise augmente beaucoup de PIB, augmente beaucoup d'activité, eh bien, ça se traduit par une augmentation pour moitié de mon choc, vous voyez, de mes... Enfin, voilà, ça affecte de cette manière-là mon choc d'exportation. Donc, je regarde ça. Et puis, alors là, j'interagis avec la distance. C'est-à-dire, j'autorise ma firme à être près de la frontière ou pas près de la frontière. Et là, c'est la chose intéressante. C'est qu'en moyenne, eh bien, plus j'ai un choc d'export important, plus mon nombre de brevets va être important. Vous voyez, il y a une relation positive entre s'il y a plus d'augmentation de mon choc d'export, il y aura plus d'augmentation de mon nombre de brevets. Voilà, donc c'était important. Et c'est vraiment un effet causal, puisque j'ai construit une mesure de choc d'exportation totalement indépendante de la firme elle-même. Je veux dire indépendant de ce que fait la firme pendant cette période. Et je vois vraiment qu'il y a un effet positif de ce choc d'export sur les brevets. Donc, c'est vraiment l'effet. Alors là, ça peut être à la fois l'effet de taille de marché ou l'effet de concurrence, a priori. Mais ce qui est très intéressant, alors d'abord, je peux voir avant que je regarde, ça c'est l'innovation, mais je peux regarder au cours du temps. Ça, c'est en moyenne sur toute la période, mais je peux regarder quand est-ce qu'a lieu le choc. Et je peux regarder la réponse au choc dans le temps. Et vous voyez que quand j'ai une augmentation à certains moments de mes marchés d'exportation, immédiatement, mes ventes vont augmenter. Et immédiatement, mon emploi va augmenter. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a une augmentation de mes exportations potentielles, quand j'ai un choc positif d'exportation, immédiatement, une firme française réagit en augmentant son chiffre d'affaires, les sales, et en augmentant son emploi. C'est très intéressant. Et alors après, on peut voir qu'est-ce qui se passe sur les brevets. Alors, les priority patents, c'est des brevets qui sont importants. C'est-à-dire, c'est des brevets, vous savez, dans des classes de brevets, j'invente le premier brevet, puis après, plein de gens viennent me copier. Eh bien, le priority patent, c'est le premier brevet dans cette famille. Donc, on sait les classer. Et donc, c'est les brevets qui sont vraiment importants. Et on regarde et on voit que les brevets n'augmentent pas immédiatement. Vous voyez, la différence ici, c'est que les ventes, il ne se passe rien avant. Et puis, tout d'un coup, les ventes augmentent ou l'emploi augmente. Mais les brevets, ça prend un certain temps, parce qu'évidemment, les brevets, j'augmente ma R&D, et donc les brevets suivent avec retard, évidemment. Les brevets n'augmentent pas tout de suite, je ne trouve pas tout de suite le vaccin contre le Covid. Il faut 2 années, 3 années, etc. Et vous voyez, il y a toujours ce retard, mais il y a quand même un effet positif sur l'innovation, mais c'est un effet retardé par rapport à l'effet sur les ventes et sur l'emploi, d'accord ? Et la deuxième chose, c'est que c'est important, c'est qu'il y a les firmes frontières et les firmes pas frontières. Donc le rouge, c'est les firmes qui sont plus proches de la frontière que le médiane. C'est-à-dire qu'elles sont très proches de ce qui se fait de mieux dans leur secteur. Les points bleus, c'est les firmes qui sont plutôt moins bien que la moyenne dans leur secteur. Et on voit que l'effet est surtout positif pour les firmes proches de la frontière. Donc c'est surtout pour les firmes qui sont proches de la frontière que l'effet est le plus positif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez deux effets de l'exportation. Vous avez un effet qui est un effet de taille de marché et vous avez un effet de concurrence. L'effet de taille de marché, il est positif pour tout le monde. Mais l'effet de concurrence, il est très négatif si vous êtes loin de la frontière. Parce que si vous êtes loin de la frontière, dans la concurrence avec les autres qui veulent aussi exporter en Chine, eh ben vous allez vous faire battre, quoi. Vous allez pas y arriver. Et peut-être que plus la Chine devient grosse, plus il y aura de nouvelles firmes étrangères venant d'autres pays qui vont aller exporter en Chine. Et si vous n'êtes pas bon, eh bien, vous perdez, quoi, essentiellement, au lieu de gagner, vous voyez. Donc, c'est intéressant. Il y a cet effet à la fois de taille de marché des exportations et cet effet de concurrence des exportations. Et pour les entreprises qui sont loin de la frontière, l'effet de concurrence est très négatif. Et il compense largement l'effet positif de taille de marché. Tandis que pour les firmes proches de la frontière, eh bien, l'effet de taille de marché est très positif. Et l'effet de concurrence, il est très légèrement positif. Il n'est certainement pas négatif. Et donc, au total, eh bien, c'est surtout les firmes proches de la frontière qui bénéficient, dont l'innovation va être stimulée par un choc d'exportation. D'accord ? Et moins les firmes qui sont loin de la frontière. Donc ça, c'est intéressant comme conclusion, voyez. Je peux maintenant regarder, vous voyez, d'ailleurs, alors là, ce qui est intéressant, c'est que je ne vois pas beaucoup de différence. Je vois un petit peu quand même, below median productivity, on voit quand même que l'effet est plus important. Si on voit quand même la différence, vous voyez, donc là, il n'y a pas de différence, mais vous voyez que les firmes qui sont above median, c'est les firmes en rouge, vous voyez que l'effet est plus positif, l'effet est un peu plus positif sur l'innovation. Vous voyez, si je devais relier une courbe avec en joignant les points rouges, vous voyez que j'aurais une courbe qui est ici, est au-dessus de la courbe où je joins les points bleus. Vous voyez ? Donc ça, c'est intéressant. Mais tout le temps, c'est retardé. Vous voyez, c'est plus positif pour les firmes proches de la frontière. Voilà. Tandis que si je regarde en termes d'emploi et de chiffre d'affaires, il n'y a pas une énorme différence proche de la frontière, loin de la frontière. Un petit peu, oui, c'est pas sensiblement différent. Proche de la frontière, loin de la frontière. Tandis que pour l'innovation, on voit vraiment que c'est au-dessus. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on montre ? Eh bien, que le choc d'exportation, les marchés d'exportation, ça incite à l'innovation, mais ça incite à l'innovation surtout pour les entreprises qui sont déjà performantes, qui sont déjà proches de leur frontière dans leur domaine. D'accord ? Mais c'est quand même intéressant qu'au total, il y a un effet positif et significatif des marchés d'exportation sur l'innovation. Donc vous voyez, ça c'est une bonne raison, mais je reviendrai sur le débat, ça va nous amener au débat, comment répondre au choc d'importation, est-ce que c'est en faisant une guerre commerciale ou pas. Et là, il faut que je prenne en compte cet effet. Donc ça c'est un premier effet vertueux de l'innovation, de l'exportation, c'est qu'un premier effet vertueux de l'exportation, des marchés d'exportation, c'est que ça incite davantage à innover. Voilà, parce qu'à la fois j'ai un effet de taille de marché et surtout pour les firmes très performantes, si j'ai un effet de concurrence qui peut être plutôt en tout cas positif et certainement pas négatif. Et donc au total, voilà. Mais au total, voilà, l'effet est positif. Acquérir un nouveau marché d'exportation implique davantage d'innovation et on montre que l'effet est causal. D'accord ? Alors, je voulais quand même, avant de passer au truc suivant, donc je veux dire, voilà, il y a une autre, je suis toujours dans le chapitre exportation, et je veux dire, il y a une autre avantage des exportations, c'est que les exportations, ça permet également de diffuser les idées. Alors, ça, c'est un truc important, c'est un travail également que j'en ai en train de faire avec les mêmes auteurs, plus Timothée Gigou-Maggiorani, et l'idée, c'est de dire, voilà, eh bien, si j'observe, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que les produits étrangers vendus dans un pays, ça permet de les observer, permet de découvrir les innovations étrangères, d'en mesurer la qualité. Et donc, ça permet d'absorber les technologies. Voilà. Donc, il y a un effet, je diffuse mes technologies si j'exporte, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Donc, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va comparer des citations de brevets technologiques provenant d'un pays dans lequel l'entreprise détentrice du brevet, prenez une entreprise française, elle a un brevet et elle se met tout d'un coup à exporter en Chine, par exemple. Eh bien, je veux regarder comment évoluent les citations de mon brevet quand je me mets à exporter en Chine et que je regarde l'évolution de ces exportations par rapport à celles des pays où j'exporte pas. Si vous voulez, donc, en gros, je fais ce qu'on appelle une méthode de différence en différence. Il y a l'évolution. J'ai un brevet, par exemple, j'ai un brevet et je regarde la citation de mon brevet en Inde. Et mettons que je n'exporte jamais en Inde. Il y a quand même une évolution au cours du temps. Et puis, il y a le même brevet et je regarde l'évolution des citations de ce brevet en Chine. Mais il se trouve qu'en Chine, à un certain moment, je me mets à exporter. Et c'est ça que je compare, c'est ces deux évolutions-là. C'est-à-dire, il y a un pays où j'exporte jamais, il y a un pays où, à un moment donné, je me mets à exporter, et je compare les évolutions de mes citations de brevets, les deux évoluent au cours du temps, mais j'essaye de voir si, tout d'un coup, il va y avoir une accélération des citations de mes brevets en Chine, là où je me mets à exporter, par rapport à l'Inde, où je n'exporte jamais. Vous voyez ? Donc c'est ça, parce que l'idée des différences en différence. Difference in difference. Donc je compare des différences d'évolution. L'évolution de mes citations de brevets entre un pays où je n'exporte jamais et un pays où, à un moment donné, je commence à exporter. D'accord ? En fait, eh bien, ce que montre cette étude, c'est que d'abord, si je commence à exporter quelque part, eh bien, ça entraîne une hausse de 39% des innovations qui citent les brevets de mon entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très intéressant. Je vois là une entreprise qui doit être impôt, se met à exporter en Chine, etc. Eh bien, vous allez voir qu'il y a une hausse très importante des innovations en Chine qui citent, ou ailleurs, qui citent, ça peut être aussi par d'autres pays, qui citent mes innovations à moi. Donc j'avais ces innovations. Vous voyez, tout à l'heure, je regardais l'impact de l'exportation sur le fait de faire de nouvelles innovations. Mais là, c'est différent. Je regarde l'impact d'exporter en Chine sur les citations de mes brevets qui sont antérieurs, que j'avais fait avant d'exporter. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est surtout la marge extensive que ça concerne. C'est-à-dire que là, ça va être surtout la probabilité qu'un brevet soit cité au moins une fois, qui augmente énormément. Et on va montrer qu'elle est le plus fort dans les pays à niveau de développement intermédiaire, et nul dans les pays peu développés. Donc on va regarder un petit peu ça. En fait, je dis, voilà, moi j'ai mes citations de mes brevets, voilà, je suis la firme F, je vais dans le pays J autant T, quelles sont mes citations de brevets. Et ça dépend, et j'ai été rentré dans ce... Donc je regarde, moi, je regarde en différents produits, hein, d'accord. Et je regarde, l'entrée dans le pays. Quand est-ce que j'ai commencé à exporter dans le pays, d'accord. Et la variable, donc l'entrée, là, ça capture la hausse de citation se produisant avant, pendant et après le début de l'exportation. C'est ça, en fait, cette variable. Hein, c'est la hausse, voilà. Donc, je regarde ça, donc je regarde, je regarde mes citations, et voilà, ça, c'est le temps de l'entrée. Et ici, je vois que je n'ai pas, vous voyez, ici, il ne se passe rien avant. Donc, avant, il n'y a pas de train. Avant que je rentre, il n'y a pas. Mais tout d'un coup, les citations de mes brevets, quand je rentre dans un pays, par le pays, commencent à augmenter, vous voyez. Et ça prend un certain temps. Ça commence vraiment au bout de 2 ans, 3 ans, les citations commencent, vous voyez. Mais on voit vraiment un effet que tout d'un coup, eh bien, je me fais connaître. Je commence à exporter quelque part. Eh bien, que ce soit les firmes domestiques de ce pays ou les firmes étrangères dans ce pays, elles commencent à regarder ce que je fais et elles commencent à me citer, vous voyez. Donc, il y a vraiment un effet, si vous voulez, de transfert de savoir véhiculé par le commerce. Le commerce permet le transfert de savoir. Ce n'est pas juste que le commerce incite à la production de savoir, mais le commerce incite au transfert de savoir. Et alors, ce qui est très intéressant là, c'est que ça montre que c'est vraiment l'effet est concentré sur un brevet versus zéro. Vous voyez, ce n'est pas tellement que ça va augmenter. C'est la marge extensive qui compte. Tout est concentré sur la probabilité. Vous voyez, là, je regarde si l'effet est concentré sur entre 0 et 1 brevet versus 2 brevets versus 4 brevets. Et c'est vraiment, vous voyez, l'effet très positif sur le fait que ça va, surtout, je vais être cité par rapport à pas cité. Vous voyez, c'est un effet essentiellement extensif. C'est-à-dire que le fait d'exporter quelque part fait que tout d'un coup, je me fais connaître. Avant, j'aurais eu 0 citation, ben, je commence à en avoir une, vous voyez, plutôt que de dire j'en avais déjà 15 et je vais en avoir 16. C'est plutôt un effet extensif, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment ce qui va augmenter. C'est si vous voulez, tout est concentré, tout l'effet est concentré de passer de 0 à 1, quoi, essentiellement. Alors, ça, c'est très intéressant. Ça montre aussi, est-ce que l'effet est plus ou moins important selon le niveau de développement du pays où j'exporte. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est concentré. Là, ça baisse après. C'est surtout sur les niveaux intermédiaires. Alors, l'idée est probablement que si j'exporte vers un pays qui est très peu développé, il n'y a pas les possibilités d'absorption. Vous voyez, il n'y a pas l'éducation qui permet d'absorber. Et c'est des pays essentiellement d'extraction. Si j'exporte vers un pays très, très développé, peut-être qu'ils savent déjà tout. Ils n'ont pas beaucoup à apprendre de moi. Et il semble que l'effet soit maximum dans les pays où j'exporte qui sont à niveau intermédiaire de développement, parce qu'ils ont assez de capacités d'apprentissage, d'éducation, etc., pour rattraper, voyez. Mais en même temps, ils ont encore à rattraper beaucoup et à apprendre de moi. Et c'est pour ça que j'ai cet effet, que ça devient positif, vraiment. Là, c'est en fait pas différent de zéro, ça c'est les courbes, le bleu c'est les intervalles de confiance, on n'est pas différent de zéro, et on passe au-dessus de zéro vraiment, là, et le maximum est à peu près à ce niveau de développement. Là, ça baisse un petit peu. Et évidemment, ça tend à baisser après parce que si j'exporte dans un pays qui est déjà hyper développé, eh ben, ils sont déjà en avance sur moi, ils n'ont pas grand-chose à apprendre de moi. Donc, je veux à la fois un pays qui ait la possibilité d'apprendre, donc il faut qu'il soit assez développé, et en même temps, qu'il y ait quelque chose à apprendre de moi. C'est pour ça que c'est niveau intermédiaire de développement pour lequel ce truc est maximum. Donc c'est très intéressant parce que le fait d'exporter dans un pays fait que les citations de mes brevets antérieurs à l'exportation augmentent, c'est-à-dire surtout extensives. C'est-à-dire avant j'étais inconnu au bataillon, maintenant je deviens connu et cité. Et c'est surtout vrai si j'exporte vers des pays à niveau de développement intermédiaire. Voilà. Donc c'est ça que je voulais montrer. Donc au début, l'exportation produit génère un flux additionnel de connaissances technologiques de l'exportateur vers l'importateur. Le commerce permet de diminuer l'effort nécessaire pour innover. C'est donc une source de gains supplémentaires provenant du commerce international. Voilà. Donc maintenant, je passe à la section suivante, qui est comment faire face au choc d'importation chinois. Donc, si vous voulez, on a commencé aujourd'hui en disant, voilà, il y a eu la mondialisation, notamment la Chine de l'entrée dans l'OMC. L'entrée de la Chine dans l'OMC a eu un effet négatif sur l'emploi et les salaires aux États-Unis. Et elle a eu peut-être un effet, en tout cas, qui apparaît négatif aussi sur l'innovation aux États-Unis. Moins négatif sur l'innovation en Europe. Est-ce qu'il faut, par contre, on a vu que l'exportation a des vertus. Exporter dans un nouveau marché vous incite à innover et en même temps, ça augmente les citations à vos technologies antérieures, ce qui montre que l'exportation permet de transférer du savoir d'un pays à un autre et donc d'améliorer la productivité moyenne mondiale, quoi. Donc, comment il faut répondre au choc d'importation ? D'accord ? Donc là, je vais m'asseoir un petit peu et je vais parler tout ça très calmement. Il y a deux manières très différentes de faire face à la concurrence étrangère. Soit en augmentant les droits de douane, en faisant une guerre commerciale comme Donald Trump l'a fait depuis 4 ans, soit en incitant directement les entreprises domestiques à innover davantage, particulièrement en subventionnant leurs investissements en recherche et développement. Le recours à une augmentation des droits de douane est hasardeuse pour plusieurs raisons, au moins pour 3 raisons. La première est qu'en amont, il y a des composants intermédiaires. Et là, ça revient un peu à des choses que j'ai dit tout à l'heure. Une augmentation uniforme des droits de douane qui touche indifféremment les biens composants, c'est-à-dire les biens intermédiaires et les biens finaux, les biens de consommation, peut résulter en une forte augmentation du prix des composants. Vous voyez, le problème de Trump, c'est que Trump, il pensait qu'il avait augmenté l'emploi. Ce n'est pas vrai, parce qu'il a augmenté le prix des composants. Donc, il a augmenté les coûts de production des entreprises américaines. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, pour conserver leur marge, ces entreprises ont dû augmenter leur prix. Mais en augmentant leur prix, eh bien, elles ont appauvri les consommateurs domestiques et elles ont réduit la taille de leur marché. Vous comprenez ? Donc, c'est un peu les machines à laver. C'est-à-dire, si vous taxez beaucoup les composants de machines à laver, finalement, à l'arrivée, le consommateur américain, il a un produit plus cher. Il y a eu un article, d'ailleurs, de Flahen, Hortaxou et Titelno qui est exactement fait ce point. Donc, je marque les noms et vous irez les voir sur la page web qui montre ce point. C'est-à-dire que quand on prend en compte les composants, on voit les effets tout à fait pervers des hausses de tarifs Trump, vous voyez, Hortaxou et Tintelno. Et eux font ce point-là, c'est qu'ils disent d'abord, vous voyez, on ne peut pas traiter indifféremment, on l'avait bien vu déjà ce point d'une manière différente, c'est quand j'avais regardé l'effet sur l'innovation, j'avais dit, mais attendez, il y a le choc en aval et le choc en amont. Si c'est un choc, si le choc d'import est surtout sur les composants, il a plutôt un effet vertueux sur l'innovation. Tandis que s'il est surtout sur les biens finaux, il a un effet évidemment moins vertueux. Donc, simplement le point plus basique, c'est que si je mets un droit de douane et que essentiellement, ça touche les composants, eh bien, ça va en fait, au lieu d'aider les entreprises américaines, ça va les rendre moins compétitives et donc ça va réduire la taille de leur marché. D'accord ? Donc ça, c'est le... Par exemple, considérons une entreprise américaine qui produit des automobiles et qui fait appel à un fournisseur de rétroviseurs chinois. Si les États-Unis augmentent indifféremment les droits de douane sur tous les produits, ils vont également taxer les automobiles chinoises, mais également les rétroviseurs chinois. Si la taxe sur les automobiles chinoises peut avoir un effet positif sur les ventes de l'entreprise américaine, la taxe sur les rétroviseurs, elle, va pénaliser l'entreprise américaine en augmentant son coût de production. Donc, vous voyez, le premier argument, c'est de dire, voilà, il faut d'abord distinguer est-ce que c'est des chocs en amont ou des chocs en aval, et est-ce qu'il faut mettre les mêmes tarifs sur les biens aval et les biens amont. Vous voyez ? Donc ça, c'est la première chose, d'accord ? La deuxième raison pour laquelle mettre des droits de douane peut être hasardeux, ça tient à la nature des entreprises multinationales. Ces entreprises peuvent facilement répondre à des augmentations ciblées de droits de douane à l'encontre de certains pays en délocalisant leur production vers d'autres pays qui sont épargnés par ces politiques douanières. Par exemple, considérons un fabricant américain de chaussures ayant délocalisé une grande partie de sa production en Chine. Si, pour lutter contre la délocalisation, les États-Unis décident d'augmenter les tarifs douaniers à l'encontre de la Chine, cette entreprise pourra toujours localiser son activité au Vietnam, pas encore concernée par les droits de douane américains. Pour autant, cela ne résout pas la question de la relocalisation de l'activité des firmes américaines. Vous voyez, c'est donc là, c'est autre chose, vous voyez, une autre considération. La troisième raison qui fait que l'augmentation des droits de douane est une voie hasardeuse, c'est lié aux effets délétères des droits de douane sur l'innovation que nous avons déjà vu. C'est que, évidemment, ce qui va se passer, c'est que des droits de douane punitifs à l'encontre, par exemple, de la Chine, vont susciter des mesures de rétorsion de la part de la Chine. Ces mesures de rétorsion vont à leur tour réduire le nombre et la taille des marchés d'exportation pour les entreprises domestiques américaines, ce qui aura pour effet de décourager l'innovation dans ces entreprises. Nous venons de le voir. Il y a peut-être également un effet de concurrence. Ériger des barrières douanières réduit la concurrence des imports, et on sait qu'il peut y avoir des effets positifs de la concurrence. Mais voyez, donc en tout cas, il y a trois raisons importantes. Un, il faut regarder input composant versus produit final. Deux, il y a les multinationales. Et trois, il y a le fait que, eh bien, vous faites une politique à la Trump, il peut y avoir de la rétorsion des autres pays. Et ça, on s'engage dans une spirale de guerre commerciale qui peut, en fait, être nuisible à l'innovation. D'accord ? Alors, en fait, je vais maintenant représenter un raisonnement qui est le suivant. Je vais mettre ça un peu en mouvement, d'accord ? C'est ce dont je viens de parler. Donc, je voudrais un petit peu regarder la chose suivante. Considérons une entreprise domestique, d'accord ? Qui produit un bien intermédiaire, qui produit un bien composant. Intermédiaire, c'est un composant. D'accord ? Et il se trouve qu'en fait, il va vendre son composant, il peut le vendre à la fois dans le pays, à une entreprise qui produit le bien final aux États-Unis, par exemple, domestique, par exemple, américaine. Alors, cette entreprise peut vendre le composant à des entreprises finales américaines, mais elle peut vendre aussi ses composants à des entreprises finales étrangères. Par ailleurs, cette entreprise qui produit des composants et qui est américaine peut avoir des concurrents qui sont des entreprises étrangères qui produisent aussi ce bien de composants. Vous voyez ? Et du coup, vous voyez, donc on va regarder, je vais comparer évidemment l'augmentation de droits de douane à l'incitation des entreprises domestiques à innover, et j'avais déjà dit, augmentation unilatérale des droits de douane est hasardeuse, composant intermédiaire multinational à mesure de rétorsion, et là je regarde leur cadre. Alors voilà, donc en fait, voilà ce qui se passe pour mon entreprise. Ça c'est le niveau de productivité de mon entreprise. Si elle est très peu productive, elle va rien pouvoir faire vraiment. Elle va être concurrencée par il y a des importateurs qui sont meilleurs qu'elle, donc elle aura peut-être un petit marché local, mais elle n'aura pas grand-chose. Donc elle peut être là, et là ça veut dire que, si moi je suis une entreprise qui produit des rétroviseurs américains, d'accord, et que je suis très peu productif, eh bien ça veut dire que j'aurai sur mon marché des importateurs de rétroviseurs chinois, par exemple, d'accord, vous voyez ? Donc ça veut dire, voilà. Ensuite, le I, c'est un seuil d'importation. Ça veut dire que si je dépasse ce seuil de productivité-là, ici, ça veut dire que je vais pouvoir écarter les importateurs chinois de rétroviseurs. Au moins, sur le marché domestique américain, je vais pouvoir être celui qui vend les rétroviseurs. Vous voyez ? Donc déjà, de pouvoir passer le seuil d'importation fait que je peux déjà écarter du marché américain, moi, producteur de rétroviseurs américains, je peux écarter les producteurs chinois de rétroviseurs. D'accord ? C'est ce que j'appelle le seuil d'importation. Maintenant, à partir de ce seuil-là, je vais pouvoir, si je deviens suffisamment productif, je vais pouvoir également exporter ailleurs. D'accord ? Je vais pouvoir exporter parce que je suis suffisamment bon pour faire mieux que d'autres exportateurs dans d'autres pays. D'accord ? Donc, j'ai deux seuils qui sont importants. J'ai le seuil à partir duquel, sur le marché américain, on me fout la paix. Et j'ai le seuil à partir duquel, non seulement on m'a foutu la paix sur le marché américain, mais en plus, moi, je peux écarter d'autres gens sur d'autres marchés. C'est le seuil d'exportation. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui va se passer en termes d'innovation ? Eh bien, en termes d'innovation, donc je remets les seuils. Ça, c'est le seuil, le premier, ça, c'est le deuxième seuil, vous voyez, le seuil I et le seuil E. Le seuil I, il est là. Le seuil E, il est là. Eh bien, mon innovation, qu'est-ce qui va se passer ? Mon intensité d'innovation, quand je vais me rapprocher du seuil I, je vais me mettre à innover comme un malade parce que là, je suis vraiment au coude à coude avec les importateurs chinois de rétroviseurs. Donc là, je vais dire, ouah, je vais mettre un gros effort, comme ça, je vais écarter les importateurs chinois. Et vous voyez que là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le premier sommet. On va se mettre vraiment à innover très fort pour écarter les importateurs chinois. Et puis, à nouveau, on va se mettre à augmenter beaucoup l'effort d'innovation ici, parce qu'on sait que là, à nouveau, on est au coude à coude avec d'autres exportateurs dans des marchés d'exportation potentiels. Voyez ? Donc, à chaque fois que je suis au coude à coude avec quelqu'un, j'innove beaucoup plus parce que j'innove pour faire mieux que le concurrent. Et c'est là que les effets de innover pour échapper à la concurrence sont les plus forts. C'est quand je m'approche du seuil d'importation, parce que là, je suis au coude à coude avec des importateurs chinois de rétroviseurs, et là, je suis au coude à coude avec d'autres exportateurs ailleurs de rétroviseurs. Voyez ? Donc, voilà comment ça se passe. Donc, en gros, voilà l'innovation de mon entreprise en fonction de mon niveau de productivité. Mais je mets beaucoup la gomme près du seuil d'importation et près du seuil d'exportation. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai une politique protectionniste ? La politique protectionniste, elle va mettre des droits de douane sur mes importateurs. Donc, elle va faire que je n'ai pas besoin d'innover tellement. Vous voyez, déjà là, tout ce que j'ai à faire, c'est mon seuil d'importation. Au lieu d'être là, il va être là, quoi. Il va être déplacé à gauche. Donc, en fait, vous voyez, mon effort d'innovation, il va être partout en dessous, quoi. Vous voyez, si je déplace vers la gauche, puisque finalement, grâce au tarif, ça va être ça, mon seuil d'import. Vous voyez, beaucoup plus facilement, à un niveau de productivité beaucoup plus basse, je concurrence un importateur de rétroviseurs chinois, puisque maintenant, lui, il a des droits de douane à payer que moi, je n'ai pas à payer. Et vous voyez que l'effet sur l'innovation de la politique protectionniste, c'est de réduire l'innovation, évidemment. On me fait la vie plus dolce vita. Hein, je me la coule douce, puisque j'ai M. Trump qui paye les droits, qui met des droits de douane. D'accord ? OK ? Tandis que si maintenant je mets une politique de subvention à la R&D, eh bien la subvention à la R&D, elle va faire que pour n'importe quel niveau de productivité, ma courbe pointillée va être au-dessus de la courbe d'avant. Et vous voyez qu'elle augmente l'innovation. Vous voyez, c'est beaucoup plus efficace. L'un réduit l'innovation, l'autre augmente l'innovation. Vous voyez. Et donc ça, c'est très important parce que, si vous voulez, le problème de Trump, c'est des effets de court terme. D'abord, un premier problème avec ces politiques de guerre commerciale, c'est que d'abord, ça traitait de manière indifférenciée les composants et les produits finaux, ce qui fait qu'au total, il y avait des produits qui devenaient plus chers et ça fait perdre des emplois dans des entreprises qui utilisaient comme input des produits chinois et qui, du coup, ont dû augmenter leur coût de production et donc leur prix et donc réduire leur part de marché. Donc ça, c'était un effet d'emploi négatif de ces mesures. Et puis, par ailleurs, il a eu un effet négatif sur l'innovation, alors qu'une politique de soutien à la R&D aurait eu un effet beaucoup plus positif sur l'innovation. Voilà, donc ça, c'est le truc important. Et pourquoi je reviens à quelque chose que j'avais montré dans mon premier cours sur le Covid, vous vous souvenez, c'est que mon premier cours sur le Covid, eh bien, j'avais montré, en fait, dans le premier cours sur le Covid, j'avais montré dans les produits Covid, c'est-à-dire les respirateurs, les principes actifs et les masques, etc., au début des années 2000, vous voyez, la France, elle est en pointillé et l'Allemagne en continu, mais nous étions à peu près pareil en export et en import. Et vous voyez que nous, on n'augmente pratiquement pas nos imports et exports. D'ailleurs, la production stagne, j'aurais pu la présenter, mais je l'avais montré au premier cours sur le Covid, il y a 4 semaines. Mais vous voyez, par contre, les Allemands augmentent leurs imports et leurs exports. Et donc, c'est très intéressant parce que l'Allemagne garde le contrôle de ses chaînes de valeur, mais pas seulement dans ces produits-là, mais dans plein d'autres. Pas du tout avec la stratégie Trump, mais ils l'ont fait en investissant et en innovant. Et c'est une stratégie beaucoup plus prometteuse. C'est la stratégie suggérée ici. Vous voyez, ils ont fait cette stratégie-là, alors que M. Trump a fait cette stratégie-là. Et vous voyez, c'est vraiment l'avenir. Donc l'idée, c'est de dire, bien sûr, la mondialisation est un défi pour nous, mais la manière de le relever, c'est pas de mettre des barrières douanières, c'est surtout, avant tout, c'est avant tout d'innover et d'investir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire d'utiliser l'arme des barrières douanières. Dans certains cas, par exemple, si j'ai affaire à un pays qui fait du dumping social, qui fait travailler les enfants, ou des pays comme au Bangladesh, où on surexploite les gens, on les fait travailler dans des conditions scandaleuses, vous savez tout ça mieux que moi, ou bien je fais face à des pays comme a été l'Australie à un moment donné, qui était un paradis de pollution et qui se moquait du monde en matière de pollution, comme a été un peu les États-Unis d'ailleurs, ben, à ce moment-là, je ne m'interdis pas, mais là, c'est au niveau d'utiliser en tout cas la menace de tarifs contre des pays qui se comportent mal, c'est-à-dire qui ne jouent pas le jeu. Voilà. Mais maintenant, et je pense que d'abord, c'est que comme au jeu d'échecs, la menace est souvent pire que l'exécution, donc il faut surtout utiliser ça comme une menace au maximum. Et puis en plus, il ne faut pas faire ça unilatéralement au niveau d'un pays. Je pense que s'il devait y avoir des tarifs aux frontières, eh bien, ou des tarifs carbone aux frontières, par exemple, ça devrait être décidé au niveau européen pour nous et pas au niveau français. Donc je pense que cette arme-là des tarifs, elle ne doit pas être exclue a priori, mais elle doit être manipulée avec beaucoup d'attention et de soins et dans un cadre multilatéral. Je pense maintenant, si vous voulez, que l'espoir avec l'élection américaine, mais je ne veux pas dire c'est qu'on retourne en tout cas, quelle que soit l'issue de l'élection, à un cadre multilatéral. Certainement, les Chinois ont un peu abusé des règles de l'OMC, à mon avis, en subventionnant trop leurs industries. Il y a certainement un sujet là. Est-ce qu'il faut le traiter en faisant une guerre commerciale avec la Chine, ou est-ce qu'il ne faut pas aussi essayer de retourner à la table des négociations et de peut-être renégocier le traité de l'OMC, les règles qui régissent l'OMC. Elles ont besoin de l'aide de toute façon, rien que pour introduire la dimension environnementale qui, à mon avis, est très insuffisante encore. Et voilà, et le faire dans un cadre multilatéral. Donc voilà un petit peu la philosophie que j'ai sur ces aspects-là. Voilà, écoutez, je crois que je vais juste conclure parce que là, je pense que j'arrive au bout. Je voulais quand même parler un petit peu d'immigration en attendant. Je vais quand même parler un petit peu d'immigration. J'ai encore quand même un petit peu de temps. Donc là, j'arrive à la dernière partie du cours, mais elle est courte. Immigration et croissance par innovation. Parce qu'évidemment, la mondialisation, c'est la mondialisation des échanges de biens et services, mais c'est également la circulation ou non de... Et je vais juste montrer quelques éléments, simplement pour nourrir le débat. Voilà. La mondialisation a facilité non seulement la circulation des biens, mais également la circulation des individus, notamment vers les pays plus avancés technologiquement. C'est pourquoi nous nous interrogeons ici sur les effets que l'immigration qualifiée ou une fermeture à celle-ci peut avoir sur l'innovation et la croissance. L'exemple historique de l'immigration européenne vers les États-Unis est particulièrement édifiant. Comme l'expliquent mes collègues Arkolakis, Sun Yung Lee et Michael Peters dans une étude très récente, deux évolutions parallèles marquent la période 1880-1920. La première évolution est que les États-Unis rattrapent l'Angleterre et la France pour devenir la nation à la fois la plus technologiquement avancée et la plus riche du monde en termes de PIB par habitant. La deuxième évolution est que les États-Unis accueillent une immigration massive, particulièrement en provenance d'Europe, pendant cette même période 1880-1920. L'objet de l'étude de ces auteurs est de mettre en évidence un lien entre ces deux phénomènes. Grâce à l'appariement entre des données de recensement individuel qui contiennent l'information sur les pays d'origine et la date d'immigration aux États-Unis, d'une part, et des données de brevets sur cette période 1880-1920, les auteurs sont à même d'évaluer l'effet de l'immigration européenne sur l'innovation et la croissance américaine. Alors je vais vous montrer une figure qui est très intéressante. Voilà, c'est cette figure-là. Alors cette figure, elle montre les manques à gagner en matière de PIB par tête qu'aurait induite la fermeture des États-Unis à l'immigration en provenance de différents pays européens. D'abord, si les États-Unis s'étaient complètement fermés à l'immigration en 1880, si on écoutait Madame Le Pen, par exemple, voyez, Madame Le Pen, ça vous donne ça. Voyez, donc, si vous n'avez, faites pas Madame Le Pen, vous êtes à zéro là, et vous faites Madame Le Pen, et paf, vous tombez là. Voyez, ça, c'est le, vous fermez complètement l'immigration, et voyez le manque à gagner que vous avez aux États-Unis. Voyez, donc ça, c'est déjà radical. En fait, on peut montrer que donc le PIB par habitant aurait été de plus de 30% inférieur au niveau réellement atteint en 1920. Donc c'est ça la différence entre l'horizontale et la courbe arrondie. C'est intéressant parce que je peux regarder le manque à gagner si les États-Unis s'étaient fermés à l'immigration en provenance d'Allemagne, par exemple, et du Royaume-Uni. Alors Royaume-Uni et Allemagne, ça aurait été ça, vous voyez, ils auraient perdu de là à là, c'est quand même pas mal. Hein. Et si c'était fermé à l'Italie, ils auraient perdu ça. Vous voyez, c'est intéressant de voir les contrefactuels. Donc c'est intéressant le rôle que l'immigration a joué dans la croissance américaine. Alors pourquoi, il y a 150 ans, l'immigration a-t-elle favorisé la croissance par l'innovation ? Il se trouve que les immigrés européens aux États-Unis se sont avérés de prolifiques innovateurs, mais seulement après plusieurs années passées aux États-Unis. Et donc c'est cette figure-là, vous voyez, Arkolakis, Lee et Peters. Et cette figure, elle, toujours à partir des données sur la période 1890-1920, elle montre que les immigrés européens, déjà établis aux États-Unis depuis plus de 10 ans, ont une probabilité beaucoup plus grande d'innover par comparaison à la fois avec les individus nés aux États-Unis et ceux qui sont aux États-Unis depuis moins de 10 ans. Donc leur explication, c'est que les migrants ont pu capitaliser sur des idées auxquelles ils avaient été exposés dans leur pays d'origine, pour ensuite innover aux États-Unis une fois qu'ils sont véritablement et durablement établis. Donc c'est important d'avoir du capital humain au départ, une exposition aux idées au départ, donc qualifiée quand même, ou en tout cas une exposition au capital humain, et d'être inséré. Donc c'est très important, l'insertion c'est très important, vous voyez. On a besoin de gens qualifiés et insérés. Voilà, c'est eux qui vont nous donner l'innovation. Qualifiés et insérés. Voilà, hein. Alors, maintenant, on peut regarder de nos jours. Là, c'était sur des données historiques, 1880-1920. Est-ce qu'il y a des études plus récentes ? Oui, absolument. C'est l'étude de mes collègues, Rebecca Diamond et ses co-auteurs. Rebecca est fils d'un autre économiste qui s'appelle Douglas Diamond, qui a fait un des grands théoriciens monétaires. Et Diamond Dibig, tout le modèle, les modèles de bank runs, c'est vraiment Diamond Dibig, mais c'est le Diamond, c'est le père de Rebecca. Bon, allez, moi, je ne vais pas faire des histoires de famille. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, et là, ce qui est très intéressant avec cette figure-là, donc ça, c'est sur la période 1976-2012. Vous voyez, 1976-2012. Et elle montre que les personnes nées dans un pays étranger qui sont arrivées aux États-Unis à l'âge de 20 ans ou plus ont constitué 23% de la production totale. Voyez donc déjà la valeur de marché. Voyez donc ils sont voilà ce qu'ils représentent en termes de population. Mais voyez ils ont produit beaucoup plus que leur poids dans la population. Et si vous regardez en termes des meilleurs brevets et des valeurs des brevets, voyez c'est vraiment les en termes de la production. Voyez de c'est vraiment en termes de si vous voulez de contribution à l'innovation. Aux brevets, aux citations de brevets, aux citations normalisées, meilleurs brevets, valeur de marché des brevets, toutes ces mesures de valeur des brevets ou de nombre de brevets, ils ont fait beaucoup plus que ce qu'ils représentent. Vous voyez, c'est-à-dire ils étaient 10% de la population, un peu moins, et ils sont près de 23%, 20-25%. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, cette même étude montre que le décès prématuré et inattendu d'un inventeur a un impact sur la productivité de son réseau de collaborateurs, mesuré par le nombre de brevets déposés par ces derniers. Le décès inattendu peut s'interpréter comme un choc venu de nulle part, négatif sur ses collaborateurs. Eh bien, on observe que quand on perd, que c'est le décès d'un inventeur d'origine étrangère, plus d'impact négatif que le décès d'un inventeur né aux États-Unis. C'est intéressant. Et alors, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que les cerveaux issus de l'immigration apportent au pays d'accueil des connaissances et une expérience dans des domaines auxquels ils ont déjà contribué dans leur pays d'origine et qui ne correspondent pas nécessairement au point fort du pays d'accueil. Prenons l'exemple des inventeurs israéliens qui migrent dans d'autres pays. Israël étant leader mondial dans les technologies de production de l'eau, les pays étrangers qui accueillent une masse critique d'inventeurs israéliens ont plus de chances de réaliser des percées dans les technologies de production de l'eau. Et ça a été montré par Bahar, Choudhury et mon copain Rapoport. Plus généralement, il est possible de mettre en évidence un lien causal entre la migration d'inventeurs étrangers spécialisés dans certains domaines et l'invention future du pays d'accueil dans ces domaines. Un doublement du nombre d'inventeurs étrangers spécialisés dans certaines technologies conduit à une augmentation de 25 à 60% de la probabilité pour le pays d'accueil de percer dans ces technologies au cours des idées suivantes. Voilà. Donc après, il y a toute une série de... Alors évidemment, c'est que... Alors on peut dire pourquoi l'immigration stimule-t-elle l'innovation dans le pays d'accueil. Alors une première raison est liée à l'éducation. Par exemple, mon collègue William Kerr, mon copain William Kerr mentionne le fait que l'immigration contribue à hauteur de 29% à la croissance de la population active ayant achevé un second cycle universitaire aux États-Unis entre 1995 et 2008. Cette immigration a été particulièrement prononcée dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ce qu'on appelle les STEM, S-T-E-M. C'est ainsi que les résidents américains nés à l'étranger sont surreprésentés dans la liste des 250 les plus cités et également parmi les lauréats de prix Nobel en STEM, dans ce domaine, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Une deuxième, donc première raison, c'est l'éducation, ce qu'on apporte d'éducation. Deuxième raison, invoquée par Kerr, est liée à la notion de motivation intrinsèque. Cet argument s'appuie sur deux faits statistiques. D'abord, les individus issus de l'immigration ne sont pas dans l'absolu meilleurs que ceux nés aux États-Unis dans le domaine des STEM, mais ils ont tendance à s'y consacrer davantage dès leurs études, ce qui les conduit par la suite à être plus performants dans ces domaines. Deuxième raison, c'est qu'à niveau d'éducation équivalent, les immigrés semblent innover davantage. Au total, il ressort de ces deux observations que les immigrés tendent à être plus entrepreneurs, plus déterminés, plus audacieux que les natifs des États-Unis. Alors pourquoi cette motivation intrinsèque ? Peut-être un processus de sélection. Seuls les individus les plus entreprenants ou entrepreneurs, je ne sais pas, et les plus motivés ont une volonté, une tolérance au risque suffisant pour immigrer. Ensuite, le processus d'immigration lui-même rend potentiellement l'individu plus déterminé à réussir par la suite. Alors évidemment, malgré son effet positif sur l'innovation du pays d'accueil, l'immigration pose la question de la fuite des cerveaux des pays d'où ils viennent, évidemment. En particulier, cette immigration vers les pays développés ne doit pas priver les pays pauvres ou émergents de qualifications dont ils ont grand besoin pour se développer. Pour cette raison, il serait souhaitable de laisser aux travailleurs qualifiés étrangers la possibilité de retourner dans leur pays d'origine sans couper les ponts avec le pays d'accueil, mais au contraire, en conservant la valeur d'option d'un possible retour vers le pays d'accueil si les choses ne se passent pas bien dans le pays d'origine. C'est en créant de tels filets de sécurité et non en fermant définitivement nos portes que le retour des travailleurs qualifiés dans leur pays d'origine sera encouragé. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur cette chose-là. Conclusion générale, l'adhésion de la Chine à l'OMC et le choc d'importation ont eu un effet global négatif sur l'emploi et les salaires aux États-Unis. La bonne réponse n'est pas de renoncer à la mondialisation, mais d'investir et d'innover. La menace de mesures tarifaires peut se justifier en réponse au dumping social et environnemental, mais alors il importe que ces mesures soient décidées et mises en œuvre dans un cadre multilatéral et non pas unilatéral par tel ou tel pays. L'immigration peut avoir un impact positif sur l'innovation dans le pays d'accueil, mais particulièrement pour l'immigration qualifiée et ou véritablement intégrée. Donc il faut une politique, évidemment, d'intégration, d'immigration choisie et d'intégration. Voilà. Donc je conclue là ce que je voulais raconter. Merci beaucoup.